Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
De plus en plus des cas de cambriolage et de vol en main armée sont enregistrés dans le territoire de Mahagui en Ituri. Une dizaine de cas déjà en un mois seulement. La plupart des victimes sont des opérateurs économiques qui sont menacés de mort et dépouillés des fortes sommes d'argent. La troisième édition du Forum des jeunes sur la gouvernance de l'Internet en RDC s'est tenue hier à Kinshasa. Thème, la jeunesse, actrice clé de la transformation numérique et du développement de la RDC. Une centaine de jeunes ont pris part à cette rencontre. Colonel Ruffin Mapela, administrateur du territoire des Djougou, est notre invité. Il va parler du cycle de violence dans cette partie de l'Ituri. Bonjour à tous. En Ituri, une dizaine de cas de cambriolage et de vol à main armée sont déjà notifiés en l'espace d'un mois dans le territoire de Mahagui, à environ 160 km de la ville de Bounia. La plupart des victimes sont des opérateurs économiques qui sont menacés de mort et dépouillés de fortes sommes d'argent. Dans une rencontre tenue samedi à Mahagui, la société civile a demandé aux services de sécurité ainsi qu'aux autorités locales de mettre fin à cette criminalité. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Les forces vives du territoire de Mahagui dénoncent le regain de l'insécurité qui s'observe ces derniers temps à Mahagui Centre. Plusieurs habitants sont victimes de vols à main armée dans leur domicile ou dans des établissements commerciaux à la frontière avec l'Ouganda. Pour le seul mois d'avril 2025, elle dit avoir notifié 9 cas de cambriolage à Agwel, à Beka, à Ndrele, Ngote et Mahagui Port. Environ 50 000 $ américains appartenant à des commerçants sont déjà emportés par des bandits. Ces derniers entrent par effraction dans des maisons des particuliers où ils terrorisent les occupants avant de s'accaparer de leurs biens. Déogracias Oudaga, porte-parole de la société civile de Mahagui, déplore cette situation qui handicape la vie socio-économique dans la région. Dans une déclaration faite le 15 mai dernier, cette structure demande aux chefs des quartiers, avenues ainsi qu'aux agents de sécurité de procéder de toute urgence à l'identification des nouveaux locataires, mais aussi de contrôler rigoureusement les entrées aux frontières en vue d'étouffer ces réseaux criminels. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans le territoire de Benio, au nord Kivu, nous apprenons que le chef du village de Mabou, situé à 28 km d'Oicha, a été tué par balle dans la nuit de lundi à mardi par des hommes armés non identifiés. Selon le président de la société civile locale de Mamov, à 15 km du lieu du drame, ces hommes armés ont fait irruption dans le domicile de la victime vers 1h du matin. Kinos Katou, son président, déplore ce meurtre et recommande aux autorités de mener des enquêtes rigoureuses pour en retrouver les auteurs. Kinos Katou est joint au téléphone par André Kitenge.
Le chef Falou Kinda, chef du village Mabour, a été tué par les hommes non autrement identifiés vers 1h du matin dans la nuit du lundi au mardi vers mai dans sa maison. La société civile déplore et regrette la mort des grands acteurs de développement et qui protégeaient surtout la population de cette agglomération. Nous condamnons cet acte ignoble et nous demandons au service de sécurité de mener très bien ces enquêtes pour mettre la main sur les auteurs de cet acte qui ne peut pas passer sous silence. Nous recommandons au service de sécurité d'identifier plusieurs groupes armés qui naissent presque partout dans des agglomérations qui sèment crainte et terreur au sein de la population civile. À la population civile de cesser à collaborer avec ces hors-la-loi, nous devons soutenir les opérations UPDF RDC qui sont en train de nous amener la paix dans plusieurs agglomérations du secteur de Benimbao.
Un autre meurtre, c'est celui d'un homme âgé d'une trentaine d'années. Il a succombé à ses blessures dans la nuit de mardi à hier mercredi dans le village de Kachébéré, groupement de Lubériké, territoire de Walikale. Selon des sources locales, l'homme aurait été interpellé mardi par des présumés combattants du M23 pour des raisons inconnues. Conduit dans un camp militaire, il a subi des tortures qui seraient à la base de son décès quelques heures plus tard. Jusqu'à la fin de la matinée, hier mercredi, la famille de la victime victime réclamait encore son corps abandonné dans le village sous surveillance d'hommes armés, disent ses sources, rappelant que Kachebere et plusieurs autres villages de l'axe Niabiondo-Kibua sont sous occupation du M23 AFC depuis quelques semaines. Dans le territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu, les infirmières et infirmiers de la zone de santé rurale de Biena crient leur souffrance. Ils disent vivre très difficilement après la fermeture de plusieurs structures sanitaires à cause de l'activisme des rebelles des ADF dans leur milieu. Réduits au chômage, ils recommandent à l'État le paiement de leur salaire, des primes de risque ainsi que le rétablissement de la paix dans la région. Mabel Kakule Kassiyire, président du comité de l'ordre des infirmières et infirmiers de Biena, explique dans ses propos recueillis par André Kitenge.
Plusieurs infirmiers sont à déplacement. Ils ont quitté le milieu où ils ont du travail pour se déplacer vers le milieu supposé sécurisé. Dans le milieu d'asile, ils n'ont pas de travail. Ils vivent vraiment le calvaire. Le gouvernement d'instaurer la sécurité dans tous les lieux où sont implantées les structures de soins. Le gouvernement de prendre en charge les infirmiers à leur payer la prime de risque et le salaire de l'État. Aussi, il recommande à ce que le gouvernement puisse réfléchir comment encadrer les infirmiers qui sont à fuite, qui sont à déplacement et qui ont quitté leur lieu de travail.
Ici à Kinshasa, ouverture hier mercredi d'un atelier sur la mise en œuvre du plan d'action national sur les armes légères et de petit calibre ALPC. Ces travaux de 2 jours visent à obtenir le soutien des partenaires pour la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre en RDC. Il s'agit aussi, au cours de cet atelier, d'harmoniser les vues sur la dynamique du traçage de ces armes dans le pays. Ces assises ont lieu sous l'égide du Centre régional des Nations Unies pour la paix et désarmement en Afrique, UNREC, un reportage de Bertin Kassiama et Sandrine Kinchweki.
Cet atelier réunit une cinquantaine de participants venus des représentations diplomatiques d'ONG internationales ainsi que de parties prenantes nationales, notamment les forces de défense et de sécurité. Les secrétaires permanents de la Commission nationale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, Landry Bissidi, explique que les principaux progrès réalisés depuis l'adoption du plan d'action national en octobre 2023.
Il y a eu la destruction des armes excédentaires, des armes qu'on n'utilise pas. Et ça fait partie de la gestion des armes, parce que toutes les armes qu'on n'utilise pas peuvent toujours être un danger pour la population.
Pour le directeur du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, Anselme Yabouri, la RDC, qui avait du retard, a maintenant pris de l'avance sur plusieurs pays de la sous-région, dont le marquage des armes.
La RDC a maintenant pris de l'avance sur plusieurs pays de la sous-région, dans la structuration de sa commission et dans le travail qu'il est en train de faire, notamment dans le marquage des armes, le traçage avec une base de données centralisée, numérique, digitale, et dans la sécurisation des dépôts d'armes des forces de défense et de sécurité.
Ces travaux devraient porter sur un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action national et une évaluation du traçage des armes.
Retour au Nord Kivu. La prison urbaine Kangbaï de Beni a lancé le lundi 19 mai une opération de revue approfondie de 1400 dossiers judiciaires des détenus. Il s'agit d'un projet initié, suivi et supervisé par la section d'appui à la justice de la MONUSCO Beni. Pendant 2 semaines, 2 équipes mixtes composées chacune d'un avocat et d'un greffier vont passer en revue l'ensemble des dossiers afin de détecter les irrégularités, les cas de détention préventive, prolongée ou abusive et dresser un état de lieu de la documentation carcérale. Un atelier de restitution et un plaidoyer vont ensuite clore l'initiative dans l'objectif de régulariser la situation judiciaire des détenus et de contribuer à la lutte contre la surpopulation carcérale. La jeunesse, actrice clé de la transformation numérique du développement de la RDC. C'est le thème central de la 3e édition du Forum des jeunes sur la gouvernance de l'Internet en RDC, tenu hier mercredi à Kinshasa. Cette initiative a réuni 100 de jeunes et plusieurs personnalités, dont le ministre des Postes, aux Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et du Numérique, Augustin Kibasamaliba. Objectif, outiller les jeunes afin de leur permettre de bien s'impliquer dans la gouvernance d'Internet. Grâce à Mzati.
Tout en plaidant pour que l'Internet soit accessible à tout le monde dans le pays, Kevin Mukendi, coordonnateur de ces forums, pense que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le développement du numérique en RDC.
Nous voulons faire voir que les jeunes ne doivent pas être que des observateurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'IA. Certains pays sont déjà développés dans ce sens. Mais nous, nous continuons à utiliser les solutions produites par d'autres pays. Alors, nous, ce que nous voulons au travers de ces forums, c'est montrer aux jeunes qu'ils ont cette capacité, cette possibilité là, de proposer, de créer des solutions qui vont contribuer au développement de notre pays.
Quant à l'appel du ministre Kibasa Maliba aux jeunes de considérer aussi Internet comme une opportunité de s'épanouir, certains participants promettent d'en faire bon usage.
Le ministre Kibasa a également parlé du fake news, de la désinformation. Donc les jeunes doivent être surtout responsables, vulgariser de bonnes informations et utiliser l'Internet justement pour l'avancement du pays.
Certains utilisent Internet d'une manière abusive, mais il y a certaines qui utilisent ça pour avoir des bénéfices pour les investissements en ligne, pour d'autres opportunités.
Signalons que le Forum des jeunes sur la gouvernance d'Internet est une structure appuyée par plusieurs organisations nationales et internationales, dont les Nations Unies.
Attirer l'attention du président de la République, de la première ministre ainsi que du Parlement congolais sur la nécessité de doter les pays d'une bonne politique de rémunération. C'est l'objectif du point de presse organisé hier à Kinshasa par la synergie des organisations syndicales et sociales regroupant notamment le Sinecat et le Sinamed. D'après son secrétaire Jean Bosco Puna, une fois adoptée, cette initiative va jeter les bases visant à l'amélioration de la qualité de vie de la masse laborieuse et de la population congolaise en général. Cependant, la synergie des organisations syndicales et sociales fustige l'opacité qui entoure les travaux préparatoires de la politique de rémunération, lesquels travaux, selon Jean Bosco Puna, nécessitent la participation des syndicats porteurs de cette revendication sociale. Les propos de Jean Bosco Puna ont été recueillis par Plantin Yambenga et Fatih Tchenda.
L'élaboration d'une politique salariale doit être comprise comme la réforme la plus importante de l'administration publique, entendu qu'elle repose sur la justice sociale et prône la refondation des services publics sans lesquels l'on ne pourra prétendre au développement de notre pays. Les travaux lancés par les présidents de la République ne doivent pas être considérés comme un forum de plus. Les syndicats des agents et fonctionnaires de l'État demandent, 1. Au président de la République de se rassurer de la bonne tenue des assises pour un aboutissement souhaité, d'engager des réformes courageuses réduisant la taille du gouvernement et des institutions à venir. 2. Au gouvernement d'accompagner loyalement cette réforme pour redonner espoir aux travailleurs congolais et aux fonctionnaires de l'État. D'impliquer les représentants des institutions financières internationales aux travaux. D'accélérer les processus avant la clôture de l'année scolaire en cours.
Actualité internationale.
Au Sénégal, un ancien ministre de la Justice sous l'ancien président Macky Sall est inculpé pour tentative de corruption par la Haute Cour de Justice. Ismaïla Madior Fall est mis en cause par un promoteur immobilier. Il aurait reçu une avance de près de 76 000 euros sur un total de près de 380 000 euros contre la promesse d'octroyer au promoteur immobilier un marché public, à savoir la construction du centre de surveillance des bracelets électroniques. Ismaïla Madior Fall rejette ces accusations. En attendant que la commission d'instruction décide de le poursuivre ou non, il a été assigné à résidence sous bracelet électronique. Deux employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont été tués près du musée juif de Washington hier soir, a annoncé la secrétaire à la sécurité intérieure Christy Noem. Dani Danon, le représentant permanent d'Israël aux Nations Unies, a dénoncé dans un communiqué un acte dévoyé de terrorisme antisémite.
L'invité.
Depuis près d'une semaine, le territoire de Djougou en Ituri connaît un regain d'insécurité. Qu'est-ce qui justifie cette situation malgré les efforts consentis par les autorités et d'autres acteurs pour pacifier cette région? Comment mettre fin au cycle de violence dans cette partie de la province considérée comme l'épicentre des conflits armés? L'invité du journal, colonel Rufem Apela, administrateur de Djougou, répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Jean-Claude Loukidile.
Colonel Riffin m'appelle à bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le numéro un d'un territoire considéré comme l'épicentre, en tout cas, de l'insécurité des conflits armés dans la province de l'Ituri. Comment vous vivez cette situation au quotidien?
Alors, la situation que nous vivons réellement dans l'ensemble du territoire de Djougou, c'est difficile à définir. Donc, c'est une situation très capitale et très pénible que nous traversons. Ça fait au moins pendant 3 ans. Que nous sommes dans le territoire de Djougou où nous dirigeons, parce que nous menons des activités, nous menons des ateliers entre les communautés, nous participons dans des ateliers organisés même par la hiérarchie sur les problèmes entre les deux groupes armés. Mais dans un temps là, vous allez retourner dans un cycle de violence.
C'est alors justement là où je voulais qu'on en arrive. Qu'est-ce qui justifie, malgré tout ça, ces ateliers, ces rencontres, ces dialogues, ces baraza, que ce soit pas en tout cas d'initiative locale au niveau du territoire, au niveau de la province, au niveau de la MONUSCO qui votre partenaire et d'autres organisations humanitaires, qu'est-ce qui fait que malgré toutes ces démarches là, j'apprends qu'il y a encore, c'est pas Arou, c'est pas 2 ou 3, bref, tout ça n'est pas c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche toujours pas?
Bon, personnellement, en tant qu'administrateur, avec l'expérience que j'ai déjà dans cette entité, je trouve qu'il y a toujours une main noire. C'est ces mains noires-là qui...
Mais la main noire, ça fait des années
oui, on en parle. Oui, parce qu'on pose toujours des questions.
Il faut attraper la main noire.
Oui, on pose des questions toujours, même aux gens-là. Oh non, voilà, il y a un problème de tirer des ficelles. Mais quand les uns arrivent à avoir cette volonté, bon, moi, je veux vous dire les noms. C'est un problème qu'on doit essayer de voir comment on peut trouver une solution. Parce que si je vois sur le problème de la communauté, oui, parce qu'on est ici à province de l'Itour, il y a 21 communautés. Et dans cette 21 communautés, ce n'est pas le moment de dire que nous sommes peut-être une communauté prioritaire ou soit une communauté qui est placée telle. Qu'on arrive à trouver une solution nous-mêmes pour que la situation de l'ensemble de la province de l'Itour et plus particulièrement du territoire de Djougou puisse prendre.
Quelle peut être la meilleure solution pour que la province de l'Ituri retrouve une stabilité, une accalmie, pour finalement qu'on puisse relancer, parce qu'à un moment donné, on avait commencé, mais l'élan a été cassé, pour qu'on puisse relancer tout ce qui est comme développement, comme activité socio-économique, pour qu'il y ait des asphaltes partout, que les commerces marchent, que les gens construisent des maisons, des bâtiments, qu'il y ait des investisseurs, parce que nous avons autant de richesses, nous avons de l'or, nous avons l'eau qui est là, bref, on a toutes les potentialités. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, votre mot de la fin aussi, pour que l'Ituri trouve finalement le sourire, pour que ces gens qui sont dans des sites de déplacés, des milliers, puissent retourner un jour dans le village, bien que voilà, tout est déjà incendié.
Premièrement, les gens de l'Ituri doivent être conscients de tout ce qui se passe ici dans la province de l'Ituri. La deuxième encore, lorsque nous faisons des activités, des rencontres, des ateliers et de tels, nous devons être francs tous vis-à-vis de nous-mêmes.
Pas hypocrites.
Pas des hypocrites.
Vous avez oublié la dernière solution, c'est l'armée qui a le monopole de la violence qui doit sévir
oui,
finalement.
Parce que moi,
c'est
je
là
parle,
où vous accusez un peu. Bon,
je parle.
Il faut sévir, il faut sanctionner, il faut punir.
Mais à part ces 3 éléments là, nous sollicitons cette justice transitionnelle dans la province de l'Ituri pour que nous puissions arriver. À part la justice pénale, que nous allons arrêter les responsables de tous les actes. Mais la justice transactionnelle aussi est très très importante pour que nous puissions arriver à mettre fin. Donc il revient à nos jeunes qui sont en train de chercher des problèmes pour aller rejoindre les groupes. Il y a les uns qui sont dans les groupes AI, il y a les autres qui sont maintenant dans les groupes CRP. Mais moi je vois CRP et Zahir, c'est pratiquement une coalition liée à une communauté. Et de l'autre communauté, nous avons aussi le Codeco. Dans l'ensemble, là, ces jeunes-là doivent savoir que nous sommes en train de faire revenir notre province en général, et en particulier les territoires de Djougou en arrière. Ça ne fait pas honneur. Nous devons voir plus dans l'avant et cesser nécessairement toutes ces velléités qui nous poussent à commettre des actes contraires à la loi. Parce qu'un jour, la justice va nous rattraper.
Colonel Mabella, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.